Kultur um 5.
A Comparative Dialogue Act heecht den Lützebäuer Pavillon op der Biennale zu Venedig. De vum Andrea Mancini zesumme mam Kollektiv Every Island an der Kuratrice Joëlle Vallabrega konzipéiert gouf. Am Dialog mam Pavillon sinn auch déi feier Kënschler Kënschlerinnen, die am Lauf vun der Biennale am Lützebäuer Pavillon Residenzen hunn. Am Lauf vun denen Residenzen schaffen se nun an Performancen, diese dann nur dem Publik weisen. Nur der Céline Davas war dann das Woche unter Künstlerin an Chercheuse Céline Jiang hier cyberfeministischer Approche am Pavillon umzusetzen. Moore, an Eva Moore, fand dann auch zu Venedig hier zur Performance am Titel Trans Techno Rococo statt. Der Jaschinka hat sich zu Venedig mit der Künstlerin erhalten.
Vous êtes une des quatre artistes à avoir été sélectionnée pour faire une résidence et une performance, des performances au pavillon luxembourgeois. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être retenue, choisie, et quels sont les croisements que vous entrevoyez entre votre approche, votre esthétique et celle du pavillon ?
Ma première réaction, ça a été une immense joie et une surprise, je m'y attendais absolument pas en fait. Puis la manière dont ça a été demandé, ça s'est fait très simplement aussi. Et quand on m'a parlé ensuite de la proposition, qu'on s'est rencontrés du coup par Zoom avec Joëlle, la curatrice, Andrea et tout le collectif Every Island, j'ai d'abord présenté ma pratique, puis ensuite elles ont rebondi sur des mots clés que j'avais dit. Donc à partir de là, on a vraiment commencé à tisser une conversation, quoi. Un dialogue sur nos perspectives respectives et comment est-ce qu'elles pouvaient rebondir, se confronter, mais aussi se joindre pour former un ensemble cacophonique, poétique. Voilà. Ouais, ça s'est fait très organiquement, en fait. Et oui, c'est vrai que c'est un peu un rêve. Vous voyez? Un rêve.
Le principe est un peu le suivant, qu'il y a une bibliothèque de sons qui se crée à partir d'une base de données de sons que toutes les artistes ont fourni, dans laquelle tout le monde peut piocher, on va dire. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans un travail qui reste individuel, mais qui, par ça, devient collectif ?
Dans ma pratique, les enjeux co-créatifs sont très présents. Et pour moi, c'est très intuitif, très instinctif. C'est-à-dire que c'est pas du tout une contrainte. Au contraire, je me suis dit, on va former un alphabet commun, un vocabulaire, un méta-langage entre nous. Et peut-être que c'est à partir de nos vécus et de nos singularités individuelles, on va aussi réussir à pousser ça encore plus loin. J'ai pas forcément envie de parler de l'espéranto parce que forcément c'était aussi l'une des ambitions de l'espéranto, de créer un langage commun avec tout un tas de racines et d'étymologies différentes. Pour le coup, je vois ça plutôt comme un palimpeste. Donc pour les auditoristes qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un palimpeste, c'est un parchemin qui a été effacé sur lequel on vient réécrire. Et du coup, je trouve que c'est très proche de cette forme-là, complètement archaïque, millénaire, le palimpeste, un palimpeste sonore, corporel, matériel, performatif, physique et profondément, à mon sens, politique, situé et ancré.
J'aime beaucoup la métaphore parce que, en effet, c'est un peu ça. Il y a des tresses qui sont là, qui vont être couvertes, recouvertes, et après, une fois la performance finie, on va pouvoir se perdre, mais il y aura aussi une trace dans le sens où il y aura un produit final, un vinyle.
Moi, j'interroge beaucoup les technologies dans mes recherches et dans ma pratique et dans mon quotidien. Et qui dit technologie dit forcément un système organisationnel. Et quand on réfléchit à l'enregistrement, au principe d'enregistrer, c'est le fait d'écrire sur un support qui permet de l'archiver. Et c'est juste qu'on a réussi par le temps et par les évolutions à capturer l'âme le plus immatériel, entre guillemets, le plus éphémère, qui est donc la matière sonore. Parce que la matière sonore, elle est profondément vivante, elle est vibratoire. Et du coup, le fait qu'on écrive quelque chose à partir d'éléments hétéroclites dont on n'a pas nécessairement la connaissance, parce que, je veux dire, moi, j'ai proposé dans la banque sonore à la fois des choses très propres, très chiadées, très nettes, de ce qu'on appelle un son de haute définition, quelque chose de propre, enfin, en tout cas, quelque chose d'expert, comme des choses très brouillonnes, quoi, très prises sur le vif, des choses qui n'ont pas vocation à être écoutées ou à être utilisée. Et ça m'intéressait aussi dans cette anarchie de cette banque sonore, de me dire, en fait, moi, je vais offrir à d'autres personnes qui n'auront absolument aucune connaissance ni de ma pratique, ni de comment est-ce que j'ai extrait et produit ces sons à la fois organiques et synthétiques. Et je veux avoir un peu cette approche ouverte avec les banques, enfin, les données sonores des autres. Et du coup, cet ensemble sera forcément inouï, enfin, genuine, dans le sens innovant et nouveau, quoi. Donc j'ai... Pardon, je me...
J'aime beaucoup l'idée de l'anarchie et de, aussi la distinction entre les sons très propres et le côté bruyant, parce que, et ça me rappelle une interview que j'avais fait avec un musicien électronique qui disait, en fait, Internet nous a donné, le temps digital nous a donné tellement d'opportunités, d'espace, et qu'est-ce qu'on en fait? Souvent, on fait des morceaux de 3 minutes. Ça n'a aucun sens puisque on a un espace tellement utopique. Et ce qui m'amène à la prochaine question, c'est un peu, voilà, Internet fut à un moment donné un espace utopique et a très vite été balisé par le capitalisme. Maintenant, on est dans des domaines de l'intelligence artificielle qui peut être un outil de création. Et là encore, il est en train de s'être réapproprié dans tous les domaines du capital. Qu'est-ce que l'art et la musique peuvent contre cette, pour le dire en termes deleuziens, de reterritorialisation du capitalisme?
C'est extrêmement complexe. Je trouve qu'aujourd'hui, la dichotomie gauche, droite, copyleft, copyright, open source, circuit fermé, en fait, c'est pas qu'elle tend à ne plus exister. Bien sûr, il y a des espaces, des hackerspaces, il y a des espaces dissidents, résilients. Il y a toujours des propositions qui peuvent être, du coup, à la lisière entre les deux. Mais en ce qui me concerne, j'ai toujours eu, disons, plutôt une approche d'infiltration et de faire avec. Quoi qu'il arrive, l'ensemble, la polarisation existera. Et le tout, c'est de savoir comment naviguer et circuler dans ces espaces-là tout en étant critique, honnête et éthique. Et en fait, ça demande énormément d'efforts à la fois cognitifs, émotionnels, mais aussi de réajustement constant. C'est-à-dire que, bien sûr, quand je me retrouve, par exemple, sur une banque sonore open source où, en fait, des particuliers, des professionnels ou non, vont proposer gratuitement à n'importe qui l'enregistrement d'un briquet, qui s'allume, par exemple. Donc là, je n'ai pas de briquet dans la main, mais vous l'imaginez, le son du briquet. Eh bien... Moi, je suis hyper ravie d'avoir accès à ce son-là, mais je pourrais aussi l'enregistrer par moi-même. Et est-ce que ce son de briquet, finalement, cet objet industrialisé, globalisé, il est si différent que ça? Peut-être que dans le traitement, dans des choses très subtiles, il peut y avoir deux micro-différences. Mais c'est le fait de prendre et d'utiliser et d'être dans la co-créativité avec des personnes qui, à la fois, monétisent ou non leur production qui devient intéressant. Parce qu'en fait, d'un côté, ça vient complètement homogénéiser notre capacité d'écoute, la production musicale et ce que ça veut dire que d'être dans un format radiophonique, du coup les fameuses 3 minutes, ou d'expérience sonore, un concert, un EP, un album, on parle d'EP quand ça fait 20 minutes, on parle d'album quand ça dépasse les 35 minutes, on parle de concert quand on est sur au moins 60 minutes. Enfin, il y a vraiment une hiérarchisation par rapport à la temporalité. Or, on sait très bien que la matière sonore est elle-même comme la vitesse de la lumière, c'est-à-dire qu'on sait que tout n'est toujours en retard ou toujours en avance. Enfin, en fait, on est dans quelque chose de spirale sans début ni fin et sur lequel on n'a pas de contrôle. Donc, on se donne quelques outils comme ça, comme Internet, pour essayer de mieux maîtriser ces choses qui nous dépassent. Mais du coup, l'intelligence artificielle, dans en fait, ce créneau-là, pour revenir à votre question de base, parce que c'est une question très complexe, donc je ne peux pas donner une réponse comme ça, succincte. l'intelligence artificielle, je pense qu'il faudrait même arrêter d'appeler ça une intelligence artificielle, il faudrait appeler ça des agents computationnels. Ce sont quand même des systèmes computationnels mathématiques qui reposent du coup sur des statistiques, des probabilités, et on va assigner des éléments à ce programme. Et donc du coup, plus on va lui assigner, plus l'humain derrière qui va assigner des données, donc une banque de données que cet humain qualifiera peut-être de musique baroque, plus le programme sera à même de reconnaître et, en termes de probabilité, de reproduire ce qu'est la musique baroque. Mais du coup, qui définit la musique baroque? En fait, c'est aussi ça, c'est-à-dire que les traces et les archives qui ont été perpétuées jusqu'à présent, elles ont été aussi transmises et écrites par un certain type de personnes. Et moi, j'ai un propos tout à fait cyberféministe et décolonial, et les intelligences artificielles et les programmes, qu'ils soient open source ou fermés aujourd'hui, portent d'énormes biais, à la fois sexistes, racistes, colonialistes, extractivistes, et donc profondément capitalistiques. Et je dirais que c'est pas tant l'accessibilité à ces outils qu'il faudrait réfléchir, Parce qu'en fait, si on pense à ça, alors on accepte le jeu du grand capital en disant, bah oui, faut démocratiser, c'est trop bien, tout le monde va pouvoir synthétiser des voix artificielles, tout le monde va pouvoir faire du deep voicing, donc on prend une voix préexistante, on va... En fait, il faut savoir que si ça c'est possible, c'est parce que le vocodeur l'a permis et que le vocodeur date de 1932, quelque chose comme ça, donc du début du siècle dernier, quoi. Et de là, en fait, à la base, c'était même pour la radio. C'est ça qui est fou, c'est que, en fait, la radio a permis de pouvoir mettre en place le vocodeur, puis dans les années 70, des groupes comme Funkadelic et toute la bande de... je pense à aussi Jason Crew, enfin, en tout cas, des artistes, des musiciens sont réappropriés cet outil qui était un peu tombé dans l'oubli pour en faire des voix du futur, quoi, des voix robotiques. Donc là, on a Kraftwerk, etc. Et d'un coup, on arrive à incarner la technologie par cette espèce de voix artificielle. Et là, aujourd'hui, tout le défi, c'est de rendre cette voix synthétique très organique, très vivante. Et donc, il y a une vraie dissonance cognitive qui arrive quand on est là. Waouh ! Mais c'est Emmanuel Macron qui chante du Angèle. Enfin, je pense qu'on a tous déjà vu et entendu cet hybride culturel improbable. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment du trolling Internet, cette culture même. Mais en fait, si... Là, c'est divertissant, je pense. Est-ce que c'est critique? Est-ce que c'est politique? Je ne crois pas. Je crois pas que les personnes qui le fassent le sont. Mais du coup, ça rentre complètement dans un espace de capitalisme numérique. Et ce sont notamment des personnes qui ne sont pas artistes qui ont eu accès à ces technologies-là. Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que c'est pas le fait de démocratiser, de rendre cette technologie accessible qui va faire qu'on va sortir du circuit capitalistique.
Il y a des gens qui ont donné certaines définitions, qui programment et qui le véhiculent et qui font que, par exemple, le point de vue va toujours être un point de vue patriarcal, mâle, hétéro-blanc, pour le dire comme ça. Et donc, qui va faire que le deep learning, le processus va suivre cette voie. Et donc, on va normativiser encore plus, alors qu'on pourrait, contrairement à ça, on pourrait faire autre chose.
Oui, et en fait, il y a énormément d'artistes qui font de la musique électronique, qui se servent de la musique générative depuis très longtemps. Si on regarde dans le courant de l'histoire de la musique, ça existe depuis les années 50, hein, je veux dire, on n'invente rien. La musique générative, les automates, le fait qu'on puisse créer des motifs mathématiques, je pense à la musique sérielle, je pense forcément à Steve Reich, John Cage, ou même Ongaku, le mouvement japonais de musique expérimentale, Noise dans les années 50. Enfin, en fait, c'est, à mon sens, une question d'adresse et d'architecture. Et du coup, ça, il faut créer des espaces critiques. Il faut avant tout créer des espaces aussi pédagogiques. Il faut expliquer comment ça marche. Et du coup, plutôt que de dire, regarde, tu peux toi aussi créer ton propre programme, ce qui serait un peu trop complexe, mais dire, et si tu l'utilisais différemment? Et si, regarde, tu essaies de déjouer, tu essaies d'infiltrer, tu essaies de détourner l'usage premier de ce pourquoi on t'a dit qu'il fallait faire. Et là, ça devient intéressant. Moi, je crois, en tout cas. C'est ma conviction.
Je suis d'accord. Pour revenir peut-être encore vite au pavillon luxembourgeois, c'est un pavillon qui, contrairement au pavillon luxembourgeois qu'on a l'habitude de faire ici, qui ont toujours été des pavillons avec un ou une artiste locale luxembourgeoise, parfois avec un contexte migratoire, comme celui de Marco Godino, qui a déjà un peu ouvert, un peu au-delà des frontières grand-ducales, on va dire. Mais donc là, cette fois-ci, on a vraiment un projet international qui, dès le départ, a été conçu par Andrea Mancini en collaboration avec Avui Island, donc un collectif italien basé à Bruxelles, et puis avec le choix de 4 artistes d'un peu partout dans le monde. Est-ce que, pour vous, c'était un modèle à suivre pour dépasser un peu le nationalisme un peu archaïque, peut-être un peu désuet des pavillons tels qu'on les vit encore à Venise? Et on voit très bien en ce moment que ces pavillons là, créer des tensions palpables qui reflètent un peu les tensions qu'on retrouve malheureusement à l'étranger entre les différentes nations en ce moment.
Ah oui, complètement. Moi, je trouve que cette approche transculturelle est pour moi inouïe. C'est-à-dire que c'est essentiel de travailler et de d'œuvrer ensemble pour des dispositifs qui embrasse la transculturalité, l'hybridité, et qui, au contraire, voit la multiplicité, les variations comme un agrandissement. En fait, un peu comme si on va faire grandir, accroître nos capacités d'expression, notre agentivité, parce que finalement, la question de la migration, les questions identitaires et politiques, elles sont au cœur même de toute forme de civilisation. On a toujours circulé et navigué, et dans notre contexte hyper contemporain, c'est d'autant plus précieux que d'avoir des initiatives aussi bold. Non, moi, je suis hyper contente, je suis trop fière. Je trouve que ça me donne beaucoup de joie, en fait. Ça me donne beaucoup de force, beaucoup de joie. On a souvent tendance à oublier que la création, c'est aussi un espace cathartique. C'est aussi un espace d'éveil, de spiritualité, de connexion, de rencontre et du coup de conversation et de dialogue. Et même le titre du pavillon est très beau, ouais.
Soweit ich auf Schenke ein Gespräch mit der Céline Jiang. Den Lützebäuer Pavillon könnt ihr übrigens noch bis den 24. November besichern.
When you found me.